Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque 25e, bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Isabelle Herpe.
Bonjour messieurs.
Vous êtes notre invité, on va vous retrouver dans une troisième partie pour parler essentiellement de vos délégations comme vice-présidente du Grand Narbonne. Vous faites partie de ces gens qu'on reçoit souvent qui ont des délégations sur des secteurs très particuliers et nous compterons sur vos lumières pour éclairer nos auditeurs sur ces délégations qui sont essentiellement donc la politique de l'habitat.
C'est ça.
Et la transition énergétique, grande formule qui recouvre beaucoup de choses. Isabelle Herpe, on va vous questionner tout à l'heure là-dessus.
D'accord.
Mais nous avons également un sommaire, comme d'habitude, Michel. Mm-hmm. Alors, tu souhaites commencer par un hommage à un peintre, Gérard
oui.
Calvé, peu connu, mais dont tu sembles le regretter
mais de renom,
énormément.
Oui.
Après quoi, tu nous entretiendras sur trois remarques que tu as faites dans un de tes billets contre-regard sur le dernier conseil communautaire du Grand Narbonne.
Oui.
Dans une deuxième partie, tu vas nous parler des menaces qui pèsent sur la gestion de l'aréna à Montpellier.
Oui.
Cette grande arène, comme son
oui.
nom l'indique, qui semblerait connaître de vraies difficultés.
En effet, oui.
Oui, on va y revenir. Et puis, tu termineras par ce que tu appelles Carole Delga et le marketing viticole. Alors, la présidente de région et sa vision ou son comportement quant au monde viticole au doigt.
Et à la promotion de nos vins. Oui.
Et la promotion de nos vins. Alors commençons par ces remarques sur le conseil communautaire dernier, celui d'il y a une semaine environ.
Je pensais qu'on allait attaquer par Gérard Calvé.
Ah oui, oui pardon, vas-y.
Oui, Jean-Claude, certains de nos auditeurs vont s'étonner sans doute de cette chronique consacrée à un peintre de mes amis, même si et nous n'avions pas tout à fait le même âge, 92 ans quand même, Gérard. Mais Gérard Calvé était, indépendamment de ce fait, hein, que nous connaissions depuis fort longtemps, était un grand peintre. Était un grand peintre régional, peu connu dans notre région, et pourtant.
Ben
et
oui,
pourtant, Jean-Claude.
Les médias n'en ont finalement.
Il est né à Cognac, les Corbières, donc tout près de Narbonne. Tout près de Narbonne, c'était dans les années 1925-26. C'était un peintre qui habitait Montpellier. Qui, bon, pour l'anecdote, hein, est mort deux jours après la mort de son épouse. Alors c'est vrai que le cercle familial s'est resserré très tôt et l'information a très peu diffusé dans le monde des médias. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a eu aucun hommage rendu par la presse régionale dans rendant grâce à cet auteur et à ce peintre surtout d'avoir produit une œuvre considérable faite au plan national et au plan régional. Et donc je me suis tout
alors
simplement...
quel style
Gérard Calvé,
ou est-ce qu'il a une carrière changeante?
Gérard Calvé est monté à Paris en 45 et il a fait les Beaux-Arts de Paris. C'est là qu'il a rencontré des gens comme Bernard Buffet, qui était un de ses amis d'ailleurs, et qu'il a fréquenté César, Jaoux, dont des grands sculpteurs, pour ensuite redescendre en fait à Montpellier, à Sète, pour retrouver nombre de ses amis aussi, qui avaient fondé l'école dite de Sète, notamment un grand peintre qui était Denoyer, en fait un grand peintre sétois. Ça allait à 7 plutôt, et là où il y avait ses amis qui travaillaient avec lui, comme Ambrogiani, comme Sartou, etc. Donc c'est un petit ce monde-là autour duquel et avec lequel vivait Gérard Calvé.
Alors comment expliquer cette discrétion et ce relatif incognito?
Alors peut-être avait-il le tort d'être un figuratif. Pas un figuratif au sens, je dirais, primaire du terme. Hein. Ses compositions étaient tout à fait originales, à la fois dans ses compositions justement figuratives, avec une connotation mais très très subtile en fait à l'art de Picasso, et avec un chromatisme tout à fait particulier qui faisait que on reconnaît encore aujourd'hui, tout de suite, à l'œil, une toile de Gérard Calvé. Donc, et ces toiles, d'ailleurs, entre parenthèses, sont exposées au Musée d'Art moderne de Paris, faites dans de grands établissements étrangers, au Danemark, en fait, en Allemagne.
Mais rien chez nous.
À Paul Valéry, en fait, au musée Paul Valéry de Sète, au musée Fabre, en fait, de Montpellier.
Bon, c'est
il a des toiles aussi à Narbonne. J'ouvre une parenthèse.
Hein. Ah, il a quelque
oui,
chose
parce
à
que Narbonne,
quand
Meunier,
donc
oui.
Les Narbonnais peuvent oui. voir du Calvé.
Parce que, bon, pour la confidence, hein, quand Michel Meunier était maître, je l'avais fait observer quand même, que je trouvais anormal que ce peintre-là,
ne
soit pas représenté.
Donc il est au musée
et ne fasse pas l'objet d'une rétrospective à Narbonne. Et le directeur du théâtre de l'époque, d'ailleurs, avait fait une belle exposition de Gérard Calvé. Et à cette occasion-là, la ville de Narbonne avait acheté quelques toiles qui sont donc au musée de Narbonne.
Bon,
voilà
ben,
pour Gérard Calvé.
Donc voilà quand même.
Qui méritait d'être dit.
Une petite justice
ici,
rendue à ce peintre.
Ici, et une petite justice, comme tu le fais si bien remarquer, à un peintre de notre département qui a rayonné à Paris, qui a rayonné à Sète, qui a rayonné à Montpellier, qui rayonne dans le grand capital et qui, malheureusement, dans ce département, n'a même pas fait l'objet d'un entrefilé dans notre presse départementale,
voilà.
Mon cher Jean-Claude.
C'est banal de le rappeler, nul n'est prophète en son pays, ça se vérifie partout et à toutes les époques, ou presque. Alors Michel, un billet que tu as fait de la semaine qui retombe tout à fait dans ta veine habituelle, un contre-regard sur le Conseil communautaire récent.
Oui, parce que...
Qui fut d'ailleurs marqué par quelques péripéties, justement.
Oui, je fais trois petites remarques. La première, en me faisant observer qu'entre la ville de Narbonne, qui est membre du Grand Narbonne, comme tout le monde le sait maintenant. Elle est distante par rapport à sa majorité, mais elle est quand même un membre. Donc, entre la ville de Narbonne et le Grand Narbonne, c'est une petite partie de ping-pong juridico-financier, que je précise à nos auditeurs, peu avant cette réunion du Grand Narbonne, la ville de Narbonne s'était fait retoquer par madame la sous-préfète.
Alors, en conseil municipal, cette fois-ci.
En conseil municipal, au motif justifié, que le débat d'orientation budgétaire présenté par la ville de Narbonne, avait quelques manques plutôt financiers. Et des éléments qui, pas neutres du tout, des éléments qui sont imposés par la loi et qui n'y figuraient pas. Donc, l'opposition. Donc l'opposition menée par M. Sainte-Cluque a fait cette observation à ce préfet en lui demandant de réexaminer ce dom.
Et il a fallu refaire
un conseil municipal. Boum, donc conseil communautaire, c'est la semaine dernière, je ne sais pas si c'est Didier Mouly ou M. Malquet qui montait au filet, en général c'est M. Malquet qui monte au filet, là je ne sais pas, je n'y étais pas.
Oui, là c'était M. Malquet qui a pris la parole,
et qui a fait observer que le Grand Narbonne n'avait pas délibérer sur le débat de son budgétaire, c'était au mois de janvier ou février, bon, peu importe, ce qui est justifié comme remarque, la loi notre précise explicitement, sans qu'il y ait besoin d'une circulaire, comme je l'ai entendu dire, en fait, ou comme on me l'a rapporté, par un membre de l'AGLO d'ailleurs, qui ferait bien de lire effectivement la loi elle-même, enfin, qui est très précise sur ce sujet, qui dit qu'on ne vote pas pour ou contre un débat de son budgétaire, on vote une délibération qui constate qu'effectivement, qu'il y a eu un débat sur, Malquier fait observer que ça n'a pas été fait.
Donc tente d'invalider.
Et tente d'invalider en faisant valoir, effectivement, cet argument-là, pour tenter d'invalider le vote sur le budget de l'agglo.
Donc c'est un peu la réponse du berger à la bergère.
Sauf que c'est pas une condition suffisante. Voilà. Parce que pour que la sous-préfète ou le préfet. Où la sous-préfète parle par le biais du préfet. Non, plutôt, oui, par la sous-préfète par le biais du préfet, c'est ça, exactement. Est une lecture différente. Il faudrait que, dans le vote du budget, des éléments, en fait, clés, effectivement, de ce budget, comme par exemple les taux d'imposition, la masse salariale ou le montant des emprunts...
Ne soient pas apparus.
Non, il faudrait que dans le budget, sur ces trois postes-là, il y ait des écarts, en fait, considérables rapport... au débat d'orientation budgétaire de l'AGLO qui n'a pas été voté. Je prends un exemple. Imaginons que dans le débat d'orientation budgétaire de l'AGLO qui n'a pas été voté, comme cela aurait dû être fait, il ait été prévu un maintien des taux de fiscalité. Mais que dans le budget voté par l'AGLO, il y ait une augmentation sérieuse de ces taux. Alors là, effectivement, le sous-préfet, par l'intermédiaire du préfet, devrait effectivement demander
oui. hein, en fait, des,
un réexamen.
Des écarts hein, entre ce qui avait été dit et ce
exactement.
Qui est la réalité.
Donc, condition,
ce qui n'est pas le cas.
Condition suffisante, enfin, condition formelle invoquée par Malkier, juste, elle aurait dû être, il aurait dû avoir une délibération du DOP, mais c'est pas suffisant, effectivement, pour remettre en question la délibération relative au budget de l'agglomération.
Bon.
Voilà donc, pour la précision. Enfin,
donc voilà. Donc, le retour de bâton n'aura pas lieu au grand désarroi.
Deuxième
peut-être.
Remarque.
Oui,
deuxième
alors,
remarque,
rapidement.
Deuxième remarque. Alors, un ami qui siégeait d'ailleurs hein, sur les bancs du Grand Narbonne, qui siégeait dans le groupe majoritaire, d'ailleurs, je dis ça pour notre invité qui est Isabelle Herbe, me faisait remarquer qu'il y avait beaucoup d'absents ce jour-là. Mm. Beaucoup d'absents dans le groupe Nouveau Narbonne d'ailleurs, enfin Nouveau Narbonne, de oui. Niémouli.
Enfin, un peu partout.
Hein. Et quelques absents, pour ne pas dire une petite cohorte, d'élus de la majorité, Jacques Bescou. Dont d'ailleurs, entre parenthèses, son ministre des Finances, oui. qui paraît-il était malade, oui, fait, oui, ou ailleurs, bon, peu
bref.
Importe.
Et toi, tu as une explication.
Oui, parce que c'est pas moi qui le dis, je donnerai pas le nom de ma source, en fait.
Oui,
ce
ah bah
sont
non.
désobligeants
un
par rapport à,
ne
par
le
rapport
fait
à
pas,
elle,
Michel.
Par rapport à lui. Hein, et ça pourrait poser quelques petits problèmes entre ouais. amis, en fait, ouais. de ce groupe en question. C'est qu'une petite cohorte s'est rendue, figure-toi, le jour même, hein, au meeting de Hamon.
Oui.
Il y avait eu à Montpellier.
Oui, bah, des socialistes qui vont à un meeting de Hamon, c'est pas incongru non plus.
Non, mais quand même, enfin, pour un acte aussi fondamental qui engage effectivement le Grand Narbonne, en fait, sur la période qui court 2017.
Bon.
C'est
un oui.
acte majeur.
Alors, le point de vue, justement, d'une personne concernée, Isabelle Herpe, on vous écoute.
Oui. Donc, moi, effectivement, j'ai fait le choix de ne pas être présente pour le vote du budget de l'agglomération et j'ai fait le choix de participer au meeting de Benoît Hamon à Montpellier. Alors, non pas parce que le budget me semblait moins important, parce que c'est effectivement un acte fort de notre agglomération, mais me semble-t-il quand même que ce qui est important aussi, c'est le travail au quotidien que nous menons et les actions que nous mettons en place sur l'ensemble de l'année et sur l'ensemble du mandat à l'attention de nos concitoyens et de notre territoire. Et j'ai fait effectivement le choix de la présidentielle parce que ça me paraît être quand même un temps fort aussi de la vie de l'institution et que ça peut avoir des répercussions, qu'on le veuille ou pas, aussi sur les territoires et sur les actions à mener.
Voilà.
Madame
Herpe
a raison, donc les contribuables
narbonniers
seront contents de savoir que... Il finance aussi l'agglo, le travail des élus communautaires et notamment les vice-présidents qui bénéficient d'indemnité. Communautaire pour aller aussi assister à un meeting de Benoît Hamon. Je passe.
Oui, troisième, une fois dans
troisième,
le mandat.
Hein. Troisième petite remarque, M. Sillé qui vote le budget.
Ah oui,
ça,
oui,
c'est
oui. Mais ça,
tu
l'as fait déjà remarquer.
Ben, personne ne l'a remarqué, mais quand même. En fait, c'est la première fois qu'un maire d'une commune aussi importante qui appartient au groupe de Didier Mouly vote le budget de l'agglo à mi-mandat.
Et tu laisses... penser que tu reviendras sur le sujet
oui,
ou parce que certaines évolutions vont se dessiner.
Oui,
c'est ce que tu avais laissé entendre.
Je pense, effectivement, que
voilà.
politiquement, ça a du sens.
Et on a le temps d'y réfléchir puisque nous devons marquer une première pause et nous nous retrouverons tout de suite après.